Pour énerver la suite ce soir, une drôle d'émission, la comédie à la française. Mais avant de commencer, je vous propose de faire un tour de table avec nos invités pour caler les micros et les voix de chacun. Gérard Pires, vous êtes réalisateur. Erotissimo avec Jean-Yann. Elle court la banlieue avec Marthe Keller et Jacques Higelin et Taxi 1. C'est vous. Je rajoute quelque chose?
Non, c'est parfait.
Très bien. Baya Kasmi, vous êtes réalisatrice. Je suis à vous tout de suite. C'était un de vos films. Vous êtes scénariste avec Michel Leclerc. Le nom des gens, c'est vous. Et même comédienne dans La lutte des classes qui est actuellement en salle. Ça vous va?
Super.
Marine Boisson, vous êtes...
Bausson.
Marine Bausson, vous êtes stand-upeuse. Oui, ça se dit. Vous êtes comédienne, humoriste et vous aurez la charge d'animer The Blind Test, réplique et moment culte au drôle de festival du Forum des Images à Paris dans quelques jours. Ça vous va?
C'est parfait.
Et enfin, Simon Rio, vous êtes journaliste, critique de cinéma à écran large et membre de la bande du Cercle sur Canal+, avec l'ami Augustin Trapenard.
Qu'il en soit ainsi.
Il est gentil avec vous?
Oh, il fait ce qu'il peut.
Sinon, on se venge. Hein. Ça va pour la présentation, c'est parti.
Vous ne voyez rien! Vous êtes myope des yeux, myope du cœur et myope du cul!
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous?
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau?
Nouveau.
Ce soir?
Ah, ça commence fort, hein. En effet. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour se énerver la suite. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, surtout si vous aimez bien rigoler. Ce terme déjà me fait pathétique.
Moi,
il y a des gens
rigoler.
Qui détestent ça, vous savez. Et oui, ça doit bien exister. Bref, ce soir, de la comédie et du rire français, monsieur. À l'occasion de la toute première édition du nouveau festival du cinéma du Forum des Images à Paris, un drôle de festival. Ça commence jeudi prochain. Et nous, ce soir, on se demande, mais qu'est-ce qui fait courir la comédie à la française? Les comédies, on le sait, trustent les meilleures entrées au box-office français. On a fait le compte. Parmi les 100 plus gros succès, les 10 premiers films sont des comédies. Un genre qui, en plus, s'exporte très bien à l'international. Alors, tout va pour le mieux au pays de Claude Zidi, de Max Pécasse, de Toledano Nakache et autres Danny Boone. Mais il y en a plein d'autres, hein. Pas sûr. Car la comédie est devenue un genre tellement bankable qu'il est difficile pour un jeune réalisateur de proposer un film qui ne soit pas une comédie aujourd'hui. Les producteurs et les chaînes veulent ça. Mais à quel prix? Et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une bonne comédie à la française? Il y a des recettes? Oui, il y en a. Des castings qui marchent, par exemple. Mais au fond, qu'est-ce qu'elles racontent, ces comédies, dans ce pays de plus en plus social, où c'est l'inverse? Qu'est-ce qu'elles racontent de notre pays, ces comédies de plus en plus sociales? Mais qu'est-ce qu'on a encore fait aux comédies françaises? C'est le titre de notre Aldomation à nous, Benoît Lagane.
Moi, je préférais
comédie à la française. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Allez, sans rire, on peut commencer. Ok.
France Inter.
Ok.
Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard.
Vous êtes en pleine forme.
Oui, oui. Et puis le
pourtant, vous êtes old school. Hein, c'est marqué sur votre t-shirt
c'est ça,
que je vous ai offert.
Pour être exact, Laurent, mon titre que j'adore, je l'ai pompé à Simon Rio ici présent. C'était l'excellent titre de son article pour Écran Large. Voilà. Oui, vous l'avez dit, parmi les 100 premiers films au box-office français, les comédies arrive largement en tête. Il faut dire que l'on en produit en masse des comédies, ceci explique sans doute cela. Des films marquants comme Les Ch'tis, comme Taxi ou Le Nom des gens, et puis d'autres que l'on a un peu oubliés.
Comme quoi?
Eh bien, tenez, par exemple, avec Virginie Rouzic et Gaëtan, notre stagiaire, on se souvenait, actualité oblige, de Quasimodo del Paris, le film de Patrick Timsit, tourné notamment à Notre-Dame de Paris. C'était il y a 20 ans, quasiment jour pour jour. L'humoriste, donc Patrick Timsit, signait sa première réalisation.
Vous voyez ce qui est arrivé à la cathédrale après ce film?
Oui. Et non, mais le film, c'était plutôt témoin des années 99, surfait sur la mode de Notre-Dame de Paris, la comédie musicale, bien évidemment, et le film de Walt Disney. Il faut dire que quand on va au cinéma en famille, on se replie en général sur des valeurs sûres. Et la comédie, c'est une valeur sûre. Alors longtemps, vous et moi, Laurent, on allait voir Louis de Funès, par exemple.
Oui.
Un des gendarmes,
que
par exemple.
Toujours adoré.
Voilà. Ou Belmondo, genre L'As des As, par exemple. Et puis, de plus en plus, depuis quelques années maintenant, et ça dure, on va voir un Christian Clavier en Jacouille, par exemple, ou en Astérix, ou en Bronzé, ou en... celui quand il demande ce qu'il a fait au bon Dieu, par deux fois, par ailleurs.
Et l'Algérie, alors?
Ah, j'ai beaucoup aimé Rachid.
C'est des paysans, hein?
Des paysans, pas besoin d'aller si loin, hein. Faites un petit tour par Barbès, et puis c'est kiff-kiff, comme on dit chez vous. C'est du second degré.
Moi, ça m'a fait rire, quoi. Ah. Je supporte plus le politiquement correct.
Voilà, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, donc où on vient voir encore du Clavier, mais pas tout seul, parce que c'est là où la comédie est intéressante aussi, c'est qu'elle crée un jeu de casting avec d'autres figures, comme Chantal Lobby, venue des nuls, ou par exemple des stand-uppers, pour citer que cela. Et quand ce n'est pas Clavier, eh bien c'est Cadmérade, ou le film signé par son comparse, Olivier Barou, le Olivier de Cad et Olivier, bien connu pour ses succès qui, attention jeu de mots, tuche le pactole. Vous voyez?
Wow.
Dernier film.
Ce soir, vous allez devenir co-scénariste.
Oui, c'est ça. oublié la française. Dernier film du duo, Just Gigolo. Le film sort demain, mais alors est-ce qu'il va accrocher le public?
Si je te disais qu'avec mon savoir, tu peux obtenir ce que tu veux.
On commence quand?
Leçon numéro 1, tout est dans le regard. Accroche bien le regard de ta proie. Accroche, accroche, accroche. T'as décroché?
Alors, est-ce que Just Gigolo, ça va accrocher? On verra bien. Réponse demain au box-office. Alors, qu'est-ce qui fait la recette d'une comédie qui marche? Si demain, je me lançais dans Qu'est-ce qu'on a encore fait au camping? Comment devrais-je défendre...
Ce serait un film porno.
Comment devrais-je défendre mon projet? Gérard Pires, vous qui avez du recul, parce que vous avez quand même fait venir Jean-Yann et Annie Girardot dans un casting dans Erotissimo en 69. Vous avez signé Taxi, le premier double zéro avec Eric et Ramsey, pour convaincre des producteurs et des financiers. Ça passe par quoi? Ça passe par un pitch? Ça passe par un casting pour réaliser et soutenir une bonne comédie, enfin, ou du moins une comédie qui peut marcher?
En fait, je suis très mal placé pour répondre à cette question, dans la mesure où c'est toujours les producteurs qui sont venus me voir avec des scripts.
Ah ouais?
Donc, ensuite, effectivement, il fallait choisir un casting. Et moi, j'ai toujours aimé avoir des castings un petit peu décalés, qui n'étaient pas forcément évidents. Dans Erotissimo, Jean-Yann n'avait encore pas fait de grands films. Je crois qu'il avait tourné un ou deux films seulement auparavant. Annie Girardot n'était pas une actrice comique. Et donc,
elle n'avait pas fait Claude Zélie encore, parce qu'après elle a fait des trucs avec Louis de Funès notamment.
Oui, je pense qu'elle n'était pas considérée
comme
une
actrice. Non, c'était pas la grande actrice comique.
Elle était surtout considérée comme une comédienne has-been en 68.
Ah oui, d'accord. Oui.
Donc moi j'aimais ces castings un petit peu décalés.
Baya Kasmi, vous, quand vous vous lancez dans le cinéma, notamment avec Michel Leclerc, comment vous vendez vos projets? Est-ce que vous venez avec une idée, on va révolutionner la comédie, on va proposer une anti-comédie française, ou au contraire, pas du tout, vous venez juste avec une idée, et pourquoi pas un casting?
Ouais, c'est super dur, parce que en l'occurrence, quand on fait le nom des gens, on vient, pour nous, c'est une idée de film, plus qu'une idée de comédie. Enfin, c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire que si on se disait... Mais des fois, peut-être, c'est ça dans certaines comédies que vous décrivez, ou en tout cas, il y a beaucoup de comédies de producteurs qui se disent, effectivement, qu'est-ce qui pourrait faire rire aujourd'hui? Qu'est-ce qui serait porteur? Nous, on se dit, on a envie de raconter quelle histoire, et comment on a envie de la raconter? Oui, on aimerait bien que ce soit léger, que ce soit drôle.
Et au niveau des castings?
Et au niveau du casting, ça vient après.
Après.
Ça vient après. Mais c'est marrant, parce que c'est vrai que c'est un casting génial. Du
Jean-Yann
film.
Et Jean-Yann et Girardot, oui,
exactement.
Bien sûr. Ouais.
Et moi, je pense à la comédie, Divorce à l'italienne. c'est vrai que quand imagine Marcello Mastroianni et Sofia Loren pour une comédie, une vraie grosse comédie, mais évidemment qu'elle est plus forte que ça et que c'est un vrai film. Et peut-être que c'est ça qui, on va dire, qui manque un peu aujourd'hui, des grands acteurs pour porter des comédies, ou des nouveaux acteurs pour porter des comédies qui sont des vrais films, qui ne sont pas faites que pour faire rire, en fait.
Mais il y a quand même des réussites, même avec des bonnes comédies, je pense avec des acteurs quand même de bonne notoriété. Laurent Lafitte et Marina Foïs dans Papa et Maman 1, le premier, était vraiment excellent, très bien écrit, plutôt bien filmé d'ailleurs, avec un bon scénario et d'excellents acteurs qui portaient véritablement l'histoire. Marine Boisson, vous, qu'est-ce que vous attendez en tant qu'humoriste de la comédie aujourd'hui?
De rire.
Ah ben oui.
Mais non, c'est vrai, partie. Mais déjà, ouais. En fait, je regarde des comédies en me disant bon, et donc et j'attends un éclat de rire, quelque chose qui vienne me saisir, comme dans certaines séries ou dans certains films américains, et où finalement je le trouve pas forcément. Je dis pas que c'est facile, mais parfois oui, je trouve que c'est j'attends de rire, en fait.
On s'est déjà vu, non, Marine?
Exactement.
En fait, je la regarde tout à l'heure, je dis tiens, la dernière fois que je l'ai vue, j'étais dans une tenue de sport.
Exactement.
On est dans la même. Ah ben, j'ai l'impression d'être dans une émission d'M6 là. Tout
à coup, ça. Mais ça, c'est la comédie qui est en train de d'entrer en chacun.
Formidable. La dernière fois, on s'est vu, on suit de notre côté, chacun de notre côté, dans un t-shirt pourri. Simon Rio, comment vous percevez justement ce qu'on évoquait à l'instant? Vous avez signé un papier justement, dont j'ai piqué le titre pour le titre de cette émission. Mais
vous avez bien fait.
Voilà. Mais qu'est-ce qu'on a fait à la comédie française aujourd'hui pour dire que telle formule marche, telle autre marche moins?
Alors, il faut bien voir que le cinéma, je vais dire une banalité, mais ça fait toujours du bien de la répéter, c'est un art du prototype. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en réalité, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de recette, mais par définition, comme on va quand même mettre pas mal de millions de pétrodollars dedans, on a envie un peu de trouver des recettes et de trouver des méthodes. Donc on les cherche, que ce soit les comédiens qu'on pense bankable, ouais. Que ce soit les thèmes dont on se dit, mais oui, gratouillons le vivre ensemble, ça va bien se passer, que ce ce soit, on va dire, voilà, plein d'idées, plein de recettes. Mais en réalité, je crois que Baya nous le disait en creux, une bonne comédie, c'est d'abord un bon film. C'est-à-dire, c'est une histoire qui existe pour elle-même. Et c'est un casting qui est fait, non pas de, encore une fois, de marques qu'on va cocher, mais bien de personnages qui sont interprétés et dont on propose une vision auquel on apporte une tessiture, une texture. Donc, c'est là aussi où on rejoint ce que disait Gérard, c'est que dans un genre qui est énormément un genre de producteur, parce qu'il y a en France des relais médiatiques, tout un système de communication qui fait que la comédie est potentiellement plus exposée que beaucoup d'autres films, que ce qu'on appelait les films du milieu ou le cinéma d'auteur, enfin ou dit d'auteur, parce que évidemment il y a des comédies d'auteur. Hein. Moi je pense cette année à la dernière de Kervern et de Lépine, I Feel Good, qui est une comédie formidable et un film absolument stupéfiant en termes de mise en scène. Donc en réalité, peut-être que la vraie question déjà, ce serait de définir ce que c'est que la comédie, parce que je pense qu'il y a des auditeurs quand ils nous entendent parler de comédie, qui pensent film de prime time d'une grande chaîne hertzienne.
C'est des comédies aussi.
Mais ce sont des comédies. Mais voilà, et ce qui est très difficile, c'est qu'on a tendance, selon d'où l'on parle, peut-être à mettre, on va dire, des espèces de cordons sanitaires malvenus sur qu'est-ce qui serait une grosse comédie qui tâche, qu'est-ce qui serait une bonne comédie, qu'est-ce qui serait pas vraiment une comédie mais un vrai film, et peut-être qu'il faut justement mélanger et casser un petit peu tous ces codes pour voir où en est la comédie française. Et si jamais il fallait en faire un, je dirais il y a une différence entre voilà les films de réalisateurs et les films de producteurs. Peut-être
les films de réalisateurs et les films de producteurs, c'est quelque chose que vous avez vécu, vous, ça, Gérard Pires?
Pas vraiment, parce qu'en fait, j'ai toujours été d'une grande liberté à partir du moment où j'avais accepté l'idée. Et donc, j'étais toujours à l'origine du choix de mon équipe, du casting. J'ai pas eu le malaise producteur.
Mais par exemple, sur Taxi, on dit toujours Taxi, c'est un film de l'écurie Luc Besson. Comment Gérard Pires, vous installez une patte Gérard Pires dans l'univers comme ça de Luc Besson?
Mais ça, on m'a pas embêté du tout. Il y avait, à l'époque du premier Taxi, il n'y avait pas d'écurie Besson. C'est sa première grosse production. Et à tel point que à peu près personne n'était intéressé à produire ce film ou le distribuer tel que Gaumont. Et c'est à cause de ça qu'on a eu du retard à la réalisation de ce film. C'est qu'il a fallu trouver des comédiens au dernier moment. Donc,
Ah, c'était pas mal quand même pour avoir trouvé les comédiens que vous avez eu au dernier moment.
Oui, mais apparemment, c'était pas du tout le casting prévu. Donc,
ah non,
c'était quoi le casting prévu?
Le casting prévu, c'était
Olivier Martinez.
Olivier,
c'est ça?
Martinez et Attal.
Et Yvan Attal.
Comme le film a été retardé parce que Gaumont n'a pas voulu distribuer le film, les acteurs se sont barrés. Et donc, il a fallu trouver des nouveaux acteurs. Et ça a été le casting de
Samy Nasseri, du coup, et Frédéric Diffenthal,
voilà,
c'est ça?
Voilà, Nasseri, Diffenthal.
Olivier Martinez.
C'est dingue, hein?
C'est dingue,
hein? Non, mais on en revient à cette affaire de prototype.
C'est peut-être l'histoire la plus drôle de la soirée.
Ouais. Ouais, dans une comédie. Non, mais c'est incroyable. Et il était bankable.
Ah ouais, à l'époque, ouais.
Mais non, mais c'est encore cette histoire de prototype. C'est-à-dire que, étant donné qu'on ne sait pas comment on va faire une comédie, les gens, les producteurs, mais tout le monde a tendance à vouloir s'inspirer du dernier succès. Et c'est comme ça que Taxi, qui est un prototype, on va en faire je ne sais combien.
On est au combien cette fois-ci?
5. Hein.
Voilà.
Le cinquième est sorti l'an dernier.
Ouais.
C'est des vraies questions qu'il faut se poser.
Alors on va continuer avec les questions. Lui, il a le sens de la comédie au cinéma comme dans la chanson. Philippe Catherine se lâche dans le NRV.
Être millionnaire avec piscine et vue sur la mer, mais je suis dans la merde et je vous emmerde. Sentimentalement démissionnaire, professionnellement suicidaire, tu vois, moi je suis dans la merde et je vous emmerde. Danser, mademoiselle.
Non, mais ça va pas, non? Mais casse-toi, là! Tu vois pas que tu m'importunes? Gros taré, va!
J'aurais pu être votre amant.
Ouais, c'est ça, ouais!
Et caresser vos seins blancs. Mais je suis une merde et je vous emmerde.
Ouais, bah moi aussi je t'emmerde.
Vous dansez.
attends. Sois gentil. Casse-couille. Sois gentil, rentre chez toi. Bois une bière au bar.
Oui, je suis déjà pas mal bu.
Qu'est-ce que tu veux? Et bouge!
Fallait pas le chercher, Philippe Catherine. C'était il y a tout juste 20 ans. La programmation est signée Jean-Baptiste Audibert.
Oh, je t'aime, je t'aime.
Les voisins
n'entendent rien.
Si, ils entendent, les voisins, ils entendent.
Ça vous intéresse, j'ai des films chez moi.
Et ils sont en couleur?
T'es folle, c'est vachement aphrodisiaque, ça.
Tariq!
Deux mots d'ordre à cette mission.
Obtenez!
Laurent Goumard.
Dégoûtant!
J'ai donc décidé de baptiser cette opération l'opération Zen.
Le nouveau rendez-vous.
Alerte générale!
Sur France Inter.
24 heures sur 24!
La comédie française, ça marche, le cinéma comique, c'est notre blockbuster hexagonal, mais que peut bien nous raconter les comiques aujourd'hui au cinéma? Pour y répondre, à l'occasion du drôle de festival qui démarre jeudi au Forum des Images à Paris, quatre invités, le cinéaste Gérard Pires, la scénariste, réalisatrice et comédienne Baya Kasmi, l'humoriste Marine Boisson et le critique Simon Rio. Juste une question, parce que là on vient d'entendre une ouverture, j'ai encore foiré le nom, c'est ça?
C'est pas grave, non mais il y a beaucoup de voyelles et je sens qu'il y a une...
Mais moi je suis très consonne.
Les gens, ouais, très consonne. Mais alors je fais une collection de... Non, mais c'est vrai, sur Instagram, je collectionne toutes les fautes de mon... Et vraiment, et le pire que j'ai, c'est Maxime Bahoussol. Et je trouve que... Et celui-là, il est bien aussi finalement, Maxime, Marine Boisson. Il paraît que
Boisson,
hein, vous avez dit Boisson.
Ah ouais, mais c'est peut-être mon inconscient qui parle.
C'est ça. Mais il paraît que mes ancêtres faisaient du débit illégal de boisson.
Ah ben voilà.
C'est pour ça. Mais moi, je bois pas d'alcool.
Marine Bahoussol.
Bahoussol.
On va y revenir. Voilà. Donc, ce qu'on entendait donc en ouverture, c'était vraiment une époque avec vos films, hein, Gérard Pires, où la comédie à la française n'était pas comme aujourd'hui montée sur le nom des humoristes vus à la télévision. Je pense aux comédies qui se montent avec Les Inconnus, le Jamel Comedy Club, en passant par Les Nuls. D'ailleurs, Les Nuls qui sont aujourd'hui dans des comédies qu'ils auraient eux-mêmes moqué dans leurs sketchs à l'époque. Il faut quand même dire les choses comme elles sont.
Vrai.
Quand on voit Chantal Lobby dans certains rôles, on se demande. Bon, peut pas
moins Chabat. Que effectivement,
oui, Chantal Lobby, là, c'est autre chose qui s'est passé pour elle, manifestement. Et puis l'autre dans les tuches. Peu importe. Claire Nadeau. Je vous vois rire. C'est peut-être un commentaire, quelque chose que vous n'avez pas vous mis savez, dans votre article.
Le critique est de nature fielleuse. Non. Mais
cher Simon Rio.
Écoutez, je me disais, il faut bien refaire le crépi de la piscine. Non, tout simplement. Je pensais aussi ce que vous disiez, m'évoquer Alain Chabat, dont je me disais qu'il a un parcours aussi qui est extrêmement intéressant parce qu'il vient des nuls qui ont quand même secoué l'humour français énormément. Mais moi, je trouve qu'il représente un artisanat de la comédie française qui est extrêmement intéressant. Et on a, moi, j'ai pas mal de confrères qui ont un petit peu moqué Santa et compagnie, qui était sa dernière mise en scène et qui est une tentative, j'ai envie de dire, très honnête de conte de Noël et de comédie dans lequel il y a un traitement de la candeur qui est assez passionnant.
Voilà. Quand on monte des comédies aujourd'hui, il est difficile de se passer des gens de la télévision. Baya Kasmi, on vous les propose?
Non, mais bien sûr, quand on fait un casting, de toute façon, les producteurs cherchent des gens qui vont être porteurs pour que des financiers viennent
nous donner de l'argent.
Et c'est normal, donc c'est quelque chose, c'est une discussion qu'il faut avoir pour être soi-même heureux et en même temps rentrer dans un cahier des charges. Donc nous, on essaye de monter des comédies à 3 millions. Ça a l'air beaucoup, mais ça reste très raisonnable. C'est un petit film. C'est considéré comme un film moyen, un petit film. Donc,
par exemple,
je pense qu'on n'a pas besoin de Danny Boone pour monter un film à 3 millions. C'est, je ne sais pas, entre 12 et 20.
Red Ding était un petit peu au-dessus, il me semble. Ouais. Encore.
Oui, ça peut même, ça peut même.
Les résultats sont, enfin, ça marche.
Il y a retour sur investissement.
Alors, c'est une vraie question. Déjà, il faut bien se rappeler que quand on parle de retour sur investissement au cinéma, il faut être très prudent parce qu'on a toujours tendance à parler uniquement de la salle. Or, l'économie du cinéma est quand même sur un temps qui est beaucoup plus long entre la vidéo, les préachats de chaînes, les multiples diffusions. Voilà, c'est pour ça qu'il faut manier tous ces chiffres-là avec précaution. En réalité, on verrait qu'il y a une telle, on va dire, le cinéma français étant surfinancé, il coûte très cher. Du moins, ces grosses comédies-là coûtent très cher. il est pas évident de voir, elles rapportent pas toutes de l'argent sur, sur leur exploitation sale, loin s'en faut. Danny Moon étant plutôt une exception parce qu'il réalise des scores assez exceptionnels, mais il y a quand même quantité de ces gros films qui ne marchent pas, ou ne marchent pas du tout. Moi je pense à All Inclusive qui est sorti il y a quelques mois, qui se voulait une espèce de camping paradis des enfers, et rencontre
avec
les bronzés.
Avec tout le monde, voilà, avec Franck Dubosc.
C'est un petit peu ça, qui était un petit peu le Avengers de la comédie française de prime time, et qui s'est quand même viandé spectaculairement. Donc il y a encore une fois, il y a pas de recette du tout, et il ne suffit pas d'aligner comme sur un tableur Excel les non connus, les concepts a priori ayant marché, et on va dire une photographie de pub MMA pour que ça fonctionne. En réalité, ça ne marche pas comme ça, et c'est là où ça devient un petit peu plus complexe et très intéressant. Moi je crois qu'on aurait intérêt justement beaucoup à aller plus profondément dans les chiffres, et on se rendrait compte que non seulement beaucoup de grosses comédies ne marchent pas tant que ça, mais certaines petites comédies attirent beaucoup plus le public qu'on ne veut bien le dire. Je reviens à I Feel Good de Lépine à Carverne. J'ai peur de dire une bêtise en citant précisément des chiffres de box-office, mais le film a fait des scores pas inintéressants du tout. Il y a beaucoup de films comme ça qui ont beaucoup moins de médiatisation. Je pense aux Lois de la Jungle. Je pense, il y a quelques semaines, il est sorti en mars, si ma mémoire est bonne, à Rebelle d'Alan Mauduit, qui était un film que je trouve assez tonitruant.
Une comédie
assez
sociale formidablement bien écrite, ouais.
Absolument.
Avec Cécile de France, Audrey Lamy
et Yolande Moreau.
Et Yolande Moreau, excellente.
Et, et on aurait tort de ne s'arrêter, j'ai envie de dire, qu'aux 10, 15...
Ou L'Amour Flou, qui était très rentable.
L'Amour Flou aussi, bien sûr.
Une espèce de film étrange au départ, et qui ne coûte rien, et qui devient extrêmement rentable, tout en faisant beaucoup moins d'entrées, bien sûr, que Les Tuches. C'est une histoire de rentabilité. Par contre, c'est vrai qu'un très très gros budget va entraîner un risque de dépense. C'est-à-dire que des gens qui ont mis beaucoup d'argent, Les Petits Mouchoirs, c'était le cas, qui ont mis énormément d'argent pour un film qui en avait pas besoin au départ. Ensuite, on va se dire, mais on ne peut pas perdre cet argent. Donc, on va dépenser énormément en termes de copies, de pubs, etc., pour que le film existe. Et en général, ça paye pas assez pour le rendre très rentable. Donc, c'est une...
Marine Baousson, aussi, on parlait des castings, mais est-ce que c'est aussi les catégorisations de personnages? J'ai l'impression que dans tous ces films, notamment le camping blockbuster, je suis pas aussi bon que Simon Rio pour le résumer.
Une pub MMA.
Mais effectivement, on a toujours un petit peu les mêmes profils. Or, est-ce que c'est pas le problème aussi quand vous allez voir un film et que vous dites, bon, finalement, c'était pas assez drôle? C'est aussi parce que les personnages eux-mêmes ne correspondent pas à quelque chose qui innoverait un petit peu dans la comédie française.
Mais déjà, je pense qu'il y a un souci, c'est que actuellement, il y a un vrai problème sur les clichés qu'on transmet, notamment dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, où effectivement, si on regarde, il y a plein de choses qui sont drôles, mais il y a aussi plein de choses qu'aujourd'hui, je trouve qu'on peut plus transmettre comme idée. Alors après, est-ce qu'il y a de la censure, des choses comme ça? Je sais pas, mais en tout cas, pour moi, il y a un problème là-dessus. Et après, j'ai pas des solutions. Je me dis juste, effectivement, sur certains types de personnages qui sont extrêmement caractéristiques, je sais pas comment dire, mais je me dis, moi, ce que j'aime, en tout cas, c'est quand les personnages sont fous et qui sont extrêmes, comme quand on, par exemple, dans le dernier Quentin Dupieux, le Monsieur Fraise joue un personnage qui est génial, et j'adore parce que ça va au bout des choses. Et en même temps, parfois, dans certaines comédies, je me dis, oui, mais bon, ça marche pas, quoi. Et donc, je sais pas comment on peut faire pour que ce soit trouver un entre-deux, en fait.
C'était dans le film Au Poste, c'est de
Exactement, Au Poste, ouais.
Gérard Pires, est-ce qu'il y a des thèmes qu'aujourd'hui vous pourriez plus traiter? Est-ce que vous sentiez plus libre dans les années 70 pour traiter certains thèmes? Parce que finalement, c'était très sec, c'est très cul, vos films à cette époque-là. Aujourd'hui, peut-être qu'on le ferait moins, enfin, ce serait moins accepté.
Quoi, au niveau du cul, je pense que ça doit pas être impossible, mais...
C'est toujours possible au niveau du cul.
Mais par contre, le cinéma qui était ma référence absolue, c'était le cinéma italien. Et les affreux salés méchants, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des sujets, des thèmes qui seraient tabous.
Et pour autant, il y a toute une catégorie sociale qui apparaît dans le cinéma, dans la comédie, qui n'existait pas depuis des années. Il y avait beaucoup, de comédies, de gens toujours dans des appartements absolument immenses. Le père est dentiste, la mère c'est style. Bon, c'était la période avec Sophie Marceau, comment ça s'appelait ce truc?
La Boum.
La Boum, qu'on a vu quelques années plus tard avec LOL, le dernier Mon Bébé. Mais cette comédie-là, avec des grands appartements, des professions libérales, c'est quelque chose qui tente à disparaître au profit
de catégories sociales que l'on voyait moins auparavant. Par exemple, comme dans Rebelle, ou l'autre film qui a très bien marché aussi.
Oui, mais j'ai l'impression que
Les Invisibles. Ouais.
Le problème, c'est que
Marine Baousson.
J'ai la sensation que effectivement, on fait apparaître des catégories sociales qui n'existaient pas avant. Le problème, c'est que ça reste toujours écrit par des personnes qui vivent dans ces grands appartements. Et donc, est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là? C'est pour ça que Cairon, par exemple, qui a fait un film qui s'appelle Nous trois ou rien, c'est extrêmement bien écrit parce que c'est sa vraie histoire. Il raconte de là où il est son point de vue et pas d'un point de vue autre qui dirait je pense que c'est comme ça que ça a dû exister.
Mais non. Pour Les Invisibles, je crois qu'il y avait véritablement une grande documentation et une proximité avec le sujet qui a été traité. Non, je me trompe.
Ah oui, moi je pense.
Oui, absolument, oui. Ça a été assez intelligemment d'ailleurs et sans cynisme mis en avant lors de la promotion du film. Mais là, peut-être pour comprendre, voilà, ce que sont, on va dire, les stéréotypes, les clichés et les gros clichés que véhicule parfois la grosse comédie française. Moi, j'ai bien envie de me rappeler, parce que ça vient pas de moi, une excellente conférence que nos auditeurs pourront trouver sur les internets de Jean-Baptiste Torré, qui s'intitule, si ma mémoire est bonne, Le cinéma intouchable, parce qu'il partait comme base de réflexion d'intouchable et il dit quelque chose d'assez intéressant, non pas d'un point de vue un peu snob, c'est pas du cinéma, mais il dit ça n'est pas du cinéma parce que certaines de ces comédies n'ont pas pour référence des moments de cinéma. Ce sont des comédies qui sont pensées pour aller dans un flux d'images continu. En l'occurrence, on parlait de prime time, même si maintenant la télé linéarisée a tendance un peu à disparaître, mais c'est quand même cette idée fondamentale. Et donc, il y a des attendus esthétiques, il y a des attendus thématiques, et finalement, absolument toutes les scénettes de ces comédies, vous pourriez apposer dessus le logo ou le jingle de n'importe quelle réclame, et ben vous ne verriez pas forcément la différence. C'est la même photo, c'est le même découpage, ce sont des gags qui durent une trentaine ou une quarantaine de secondes et qui s'enchaînent ainsi sur ce type de tempo. Et donc tout d'un coup, l'imaginaire de ces objets vidéo, ça n'est plus le cinéma, c'est la réclame et c'est le flux continu d'images. Et tout simplement, leur but, c'est de nous occuper entre deux pages de pub. Donc de nous mettre dans un état, on va dire, de curiosité, d'attention, mais aussi de tension, pour nous faire acheter, être sensible à toutes ces questions-là et nous rassurer, on va dire, un peu artificiellement. Et dans ces conditions-là, effectivement, le spectateur, on le met dans une atmosphère, dans une ambiance où il est plutôt question de conserver, de se moquer de ce qu'on connaît, de se moquer de ce qui est un peu différent de soi. Et même si on fait apparaître deux nouvelles catégories sociales, on les regarde toujours du point de vue du possédant.
Song for Winners. C'est bien une chanson qui parle de nous, hein, Benoît Lagan.
Ah oui.
Le revival rhythm and blues de l'américain Nick Waterhouse sur France Inter. Ne rêvez pas non plus. C'est pas une émission sur la science-fiction, c'est sur la comédie.
Moi, c'est Baya. Les gens, ils pensent que c'est brésilien, mais en fait, c'est algérien. Baya Ben Mahmoud. T'as rien contre les Arabes ?
Faut dire ce qu'il y a, le niveau à Jean-Jo, il est faible.
Le nouveau rendez-vous.
Qui est en situation d'arabité pigmentaire à propension musulmane.
Bon, qui mange du cochon ?
Ouais, mais la France est un pays de fachos. T'as pas remarqué ?
Pourquoi tu veux tellement avoir l'air d'un arabe ? Tu es français.
Je suis pas français.
C'est pas parce que tu portes une djellaba rose et que t'as une barbe que ça va changer quoi que ce soit.
Je fais ce que je veux.
Bon, en fait, moi, dans la vie, les mecs de droite, je les nique.
Laurent Goumard.
Mais tu vois, quand je te dis je les nique, je veux dire, je les nique vraiment. C'est pas métaphorique, quoi.
Sur France Inter.
Tout le monde aura compris pour qui je vote, alors. Vive François Fillon ! C'est dit ce soir. La comédie française assure les meilleures entrées du cinéma
hommage
français.
Hommage à Notre-Dame de Paris.
Oui, bah oui, bah, quelle est la recette du succès ? Pour en parler, quatre invités, Gérard Pires, Baya Kasmi, on vient d'entendre à peu près tous les films que vous avez ou co-scénarisés ou scénarisés et dans lesquels vous avez joué. Avec nous aussi Simon Rio et Marine Baousson.
Bravo.
Cette fois-ci, c'est bravo.
Je suis hyper émue.
C'était consonne, voyelle, consonne. J'ai tout réussi dans l'ordre.
Magnifique.
Vous allez faire partie, vous allez diriger le blind test, c'est ça, hein, lors du prochain festival.
Exactement.
Donc, ça consiste en quoi ?
Eh ben, ça consiste à, il y a des jeux. L'idée, c'est de rendre hommage à la comédie en se disant, il y a plein de gens, il y a plein de trucs genre comme OSS 117 par exemple, qui est vraiment une
référence. Je connais cette théorie.
De quoi ?
Je connais cette théorie.
C'est quoi que cette c'est théorie ? Ça, ah oui, c'est
une des.
Voilà. Je me suis fait avoir.
Voilà, c'est ça qu'on va faire.
Elle n'a pas assez bien joué.
Alors que si j'avais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce Beans ?
Ah, j'aurais compris.
Voilà, tout à fait.
Mais vous êtes excellent. C'est vous qui devriez être acteur. Mais Kasmi, vous serez avec moi l'année prochaine ici.
Ça
à l'antenne.
Ouf, je
m'en suis débarrassé. Et donc,
eh ben,
au niveau des répliques
cultes,
ça veut dire quoi ? Il y en a encore aujourd'hui ?
Bien sûr, il y en a aujourd'hui. Astérix et Cléopâtre, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. On va faire un karaoké là-dessus, nous. On va le passer, on va espérer que toute la salle le dise en même temps. Parce que
moi, j'avais l'impression que les phrases cultes, c'était les tontons flingueurs, les trucs comme ça, mais qu'aujourd'hui, il y en avait beaucoup moins.
Non,
il y en a.
C'est 117.
Ouais, c'est 117.
Il y a Greux, enfin, il y a plein de séries, enfin, de séries de films, comme ça, qui sont cultes.
Greux, vous avez choisi Greux, mais personne n'a vu ce film.
Bah, peut-être, mais moi, il m'amuse terriblement.
Les dialogues sont moyens.
Bah oui.
Il y en a certains qui sont excellents.
Non, je rigole.
Oui, moi aussi.
J'ai tenté aussi, mais bon. Je suis viré.
Ouais. Ah oui, je garde Benoît Lagan. Oh, super,
je suis
excellent, Benoît.
Oh, je suis revenu dans la course. Mais à propos des répliques, justement, et des répliques cultes, les mecs de droite que je nique, enfin, c'est resté depuis le nom des gens. Quand on les écrit, comment ça arrive ? Est-ce qu'on se dit, quand on les écrit, tiens ça, je tiens la réplique qu'on retiendra et qu'on se redira comme, mais qu'est-ce que c'est que ce bean ?
Ils sont pas assez cyniques quand même, si ?
Ah ben quand...
ah ben si, ben on est les premiers clients. Enfin, souvent on est. Et d'ailleurs, on a parlé des comédies d'auteurs, de producteurs et de réalisateurs, mais les auteurs, de Jean-François Alain, qui est l'auteur de d'OSS. Et nous, c'est vrai que les répliques, elles sont hyper importantes quand on est auteur. Enfin, oui. On est les premiers. Quand on a envie de répéter une phrase et qu'on en rigole, en général, c'est pas mauvais signe.
Gérard Pires, vos comédies étaient basées plus sur la situation, sur les dialogues, sur la confrontation de personnages complètement différents. C'était quoi, Erotissimo ? C'était sur quoi basé la comédie ? Jean-Yann d'un côté, Annie Girardot de l'autre.
Oui,
presque inconnu et une has-been, comme vous nous avez dit.
Moi, je vois la touche. Dans Erotissimo, tout se tient dans le jeu entre les deux personnages, entre Annie Girardot, qui va devenir un petit peu l'égérie sexe de l'époque, et Jean-Yann qui doit vivre avec, en gros. Ça partait donc d'une situation, plutôt.
Oui, mais ça parlait de l'époque. À l'époque, tout, pour vendre n'importe quoi, pour vendre des yaourts, c'était forcément une photo de cul. Donc, bon, c'était comédie humaine.
Simon Rio, aujourd'hui, vous dites qu'en France, on fait une comédie française plutôt droitarde, bien de chez nous, mais qui ne s'assumerait pas comme telle.
Alors, je vais préciser un petit peu. Je parle d'un type de comédie très particulier. Donc, on a déjà un petit peu évoqué certaines comédies très médiatisées, qui ont un gros budget et qui sont conçues, voilà, pour aller en prime time. Je parle évidemment pas de toute la comédie, loin s'en faut, mais voilà, pour parler, par exemple, de qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu, Le Grand Partage et ou par exemple à bras ouverts, qui, rappelons-le, à la base devait s'appeler S'il vous plaît, avec 6 et accent aigu défilé. Je pense que ce sont des comédies
bien dit, ça peut être très drôle, vous savez.
Je n'en doute pas. Et ce sont des comédies qui souvent vont vers le public et se vendent en disant eh, vous n'avez pas l'impression qu'on peut plus rien dire, égratignons un peu le vivre ensemble pour retrouver un peu de chaleur humaine. Et moi je prétends que ça n'est pas vrai en fait. Ce sont des comédies qui sont parfaitement conscientes de ne pas raconter ça, de feindre de raconter ça, et qui en fait viennent flatter, on va pas dire les bas instincts, mais viennent flatter, on va dire, certaines convictions déjà bien présentes et dans le corps social et dans le public, et tout simplement qui se ripollinent un petit peu de fausses subversions pour paraître plus malignes qu'elles n'en ont l'air. Ça n'est évidemment pas toute la comédie française, mais moi ce qui m'intéresse, si vous voulez, je suis pas du tout choqué qu'on puisse faire une comédie de droite. Quelque part, Papa ou Maman, c'est une comédie de droite qui s'assume, qui redécouvre le divorce et qui dit que le divorce c'est quand même un sacré bordel. Donc on pourrait, si on devait la cartographier idéologiquement, dire c'est un peu une comédie de droite. C'est pas un souci, elle s'assume parfaitement comme telle et elle est très marrante. Mais quand un film nous dit non non mais moi mon délire c'est le vivre ensemble, enfin pas avec vous mais le vivre ensemble. Là c'est plus compliqué.
Il y aurait une comédie qui refuserait d'être frontalement politique du coup?
Je sais pas si elle le refuse. Je pense qu'en tout cas, elle n'a pas envie de se regarder elle-même. Elle n'a pas envie de s'auto-analyser. Et elle y va. Et elle en a parfaitement le droit. Mais du coup, je pense que moi, dans le rôle qui est celui des journalistes cinéma, ce qui est intéressant peut-être, c'est d'essayer de voir où est-ce qu'il y a du discours, quand bien même il serait pas produit toujours sciemment.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord. On peut pas faire d'œuvre qui n'a pas de discours. Donc on est toujours, on dit toujours quelque chose. On est toujours politique.
Ah bah surtout vous, de votre côté, vous militez à gauche.
Ouais,
non, mais dans les
nous,
films, hein, bien
absolument.
Sûr. Absolument. Ouais. Vous faites une comédie plutôt mais gauchiste.
Moi, oui, nous, on fait une comédie gauchiste, d'ailleurs, que justement, pas mal de gens de droite disent les fameuses, l'autre catégorie, la comédie humaniste, poète-poète, qui nous explique que c'est bien d'aimer les étrangers, etc. Et ça nous fait chier, encore une comédie qui va nous dire qu'il faut s'aimer les uns les autres, allez vous faire foutre. Ça c'est ce qu'il y a en général dans sur les forums après nos bandes annonces, donc pas de problème. Je pense qu'il y a les deux catégories. Mais c'est vrai que moi je trouve aussi que moi ce qui m'inquiète en fait, c'est que l'idée que de cette grosse comédie droitière qui existe et qui est vraiment une tradition en France serait la comédie populaire, c'est-à-dire qu'on mélangerait le peuple, les gens, on dit le mainstream pour dire sans dire de gros mots, ce qui va être aimé par beaucoup de monde quoi finalement. Et moi je me dis mais merde, j'aimerais bien que mes films soient populaires, qu'ils soient aimés, et il semble aujourd'hui qu'il y a une coexistence entre ces films de droite avec un message un peu
réaco conservato droitard.
Et qui marche. Et
ce sont des comédies. 6 millions pour qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Hein.
Cher peuple de France, allez voir des comédies
comme
qui sont aussi
des
films. Ouais. Non, mais c'est. Ouais, je vais pas aller jusque là, c'est un peu bas.
C'est
pour ça que
j'ai film,
fait. Hein. C'est pour ça que j'ai fait. Merci beaucoup.
Mais Marine Baousson, du coup, et les tuches ont les positions de comment dans cette histoire?
Alors, aucune idée. Aucune idée,
parce
je
que,
sais
parce
pas,
que, parce
moi
que,
je
parce
ris
que c'est
tuches.
Parce que les tuches montrent un peuple qu'on ne voit peu dans les comédies, mais qui les traite pas du tout avec mépris. Donc
moi,
on pourrait penser presque que c'est une comédie.
On les voyait à un
c'est
moment donné.
C'est pas du tout une comédie de droite,
la vie
c'est plutôt une
tranquille,
comédie.
On les voyait,
mais
c'était
oui,
la famille voilà, Groseille.
Mais sauf ouais. qu'à part ça...
Oui, mais sans méchanceté, parce que la famille Groseille, elle était vue d'un point de vue... Du point de vue de la famille de droite, enfin, et vice versa d'ailleurs, mais il y avait beaucoup de moqueries aussi. D'ailleurs, il assume, je crois, d'être méchant. Ça fait partie de ces comédies. Mais pour moi, Les Tuches, c'est un mauvais film, mais avec du beau rire. Enfin, j'adore ces personnages. En fait, je trouve qu'ils sont pleins d'amour. Ils sont pas jugés.
Vous dites que c'est un mauvais film parce que c'est filmé à la truelle, tout
ouais,
simplement.
C'est
voilà,
ça que je veux dire.
C'est une bonne raison.
Mais je comprends qu'on aime ces personnages.
Pas dans le traitement des personnages, en effet, oui. Marine ?
Bah oui, je suis d'accord.
Parfait. J'ai même pas eu à dire son nom. Baousson. Et pourtant, maintenant, je le maîtrise à fond la caisse.
Mais justement, est-ce que la comédie, Gérard Pires, à un moment donné, n'est pas trop une comédie uniquement de personnages et où on tout se construit autour d'un personnage et de sa potentialité à faire rire?
C'est un sujet de bac, hein. Vous avez 2 heures pour rendre les copies.
C'est un peu complexe pour moi, là.
Non, mais c'est ce que je vous avais dit. Même première université.
Non, mais justement, quand on dit que c'est pas forcément bien réalisé, mais que tout tient au personnage et que du coup, ça fait rire, est-ce que ça peut. Oh, ça peut être quand même une bonne comédie, même quand ça tient sur des personnages.
Bah
ou pas
oui. Moi, je crois que oui.
Vous croyez, ouais.
Enfin, je pense que les personnages, c'est important. Après, il y a plusieurs genres de comédies. Il y a Tati qui va faire une comédie de situation et une comédie qui décrit un monde. Il y a des milliards de genres de comédies. Mais dans la comédie en général, le personnage est extrêmement important parce que pour faire rire, il faut qu'on s'identifie à quelqu'un, il faut qu'on suive ses défauts.
Les dialogues sont hyper importants également parce que vous racontez directement des choses.
Mais les dialogues sont les mots des personnages.
Non, c'est les mots du réalisateur, c'est les mots de l'écrivain, c'est le mot du scénariste. Et ça raconte.
Eh bien, ça sera le mot de la fin. Marine Baousson, on vous attend pour le blind test. Réplique et moment culte, ce sera samedi soir au Drôle de Festival au Forum des Images. Ça commence vendredi à Paris. Ou jeudi ou vendredi ?
Jeudi,
d'accord, j'ai tout faux ce soir. Gérard Pires, Erotissimo avec Jean-Yann, sera d'ailleurs présenté au festival dimanche après-midi. Baya Kassmi, La lutte des classes, le film de Michel Leclerc est toujours en salle. Et on attend votre série télé sur M6, Le Grand Bazar. Dans quelques semaines, il y aura Arnaud dans Le Grand Bazar. Vous savez, c'est le mot qu'il prononce le plus au monde.
Il n'y a pas les Charlots, malheureusement.
Malheureusement. Et Simon Rioux, on peut vous lire dans Écran Large, écranlarge.com, et vous voir dans Le Cercle sur Canal+, autour d'Augustin Trapenard.
Si un jour notre ciel devient gris, avant que l'on perde notre envie, si nos sourires n'ont plus d'éclat, parle-moi, parle-moi. Et si j'oublie de te regarder, que notre vie est trop installée, avant que notre amour devienne flou, parlons-nous, parlons-nous. Qu'il y ait des fleurs, qu'il y ait des flammes, qu'il y ait des rires, qu'il y ait des larmes, qu'il y ait des pleurs, ça m'est égal. Tant que le silence ne s'installe pas, parle-moi.
C'est signé Séverin, le nouvel héritier de Souchon et de Pierre Vassilou, la programmation bavarde ce soir de Jean-Baptiste Audibert. Et bien voilà, le NRV, c'est fini pour aujourd'hui. Vous le savez, hein, cette année, c'est chaque jour dès 18h en avant-première sur franceinter.fr et en podcast. Et puis 22h minuit, si vous avez envie de vous retaper Benoît Lagane,
oui,
à l'antenne comme tout le monde. La réalisation est signée Marion Lelay et Juliette Medeviel. Préparation Virginie Rouzic, Benoît Lagane, Corinne Valente, Laure Grand-Besançon et Gaëtan Lévy. À la technique ce soir, Raphaël Rousseau et Guillaume Roux. Demain, on se retrouve et on sera là avec lui.
Je ne suis pas bon et je suis méchant quand je veux.
Il était plutôt bon, Daniel Auteuil, quand même, quand je l'ai vu dans Le Malade Imaginaire. À ses côtés, Nicolas Gardère, l'avocat très, très mauvais genre. Et pour le NRV la suite, journaliste politique, c'est un retour à la campagne. Voilà, tout est dit là. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. Alors à demain.
Rendez-vous.
Tu m'as donné rendez-vous demain.